Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Et aujourd'hui, c'est l'heure du duel! Avant les vacances, ouais, on termine cette saison par une heure consacrée à Yu-Gi-Oh! Manga culte de retour en librairie dans une nouvelle édition qui pèse son pesant de cartes à jouer. Et en plus, grâce à la dernière émission qu'on a faite, celle de la semaine dernière, vous êtes maintenant super calés en TCG, donc vous êtes tous prêts pour Yu-Gi-Oh! Manga lancé en 1997 au Japon. Ce manga a quand même très vite fait un carton et c'est pareil pour la France. Pour vous dévoiler quelques chiffres, sachez que plus de 2 millions d'exemplaires du manga se sont vendus en 20 ans. C'est énorme, hein?
C'est énorme, mais toujours moins que les 10 milliards de cartes de Pokémon par an.
Soit. C'est pas le même prix, je fais pas la même chose avec. Non, c'est sûr. Et c'est sûrement plus que les chiffres de suivi de vente de manga en France, ça commence en 2003. Tandis que Yu-Gi-Oh! Est sorti en France en janvier 99, donc forcément.
Ouais, 4 ans de silence, on
ouais,
sait pas.
4 ans, et sachant qu'on est peut-être près autour des 40 000 lecteurs par tome à l'époque. Et donc ça va vite, hein, malgré tout, donc on est plus de 2 millions. Parce que oui, dites-vous qu'en 2003, justement, les deux mangas les plus vendus de l'année, c'était Yu-Gi-Oh! 24 et Yu-Gi-Oh! 22. De tous les mangas, confondus. Les deux plus vendus de l'année, c'est Yu-Gi-Oh! 24 et Yu-Gi-Oh! 22. Le 23, il est pas loin après, mais il est pas là. Je sais pas pourquoi.
Moi, je pense que ce qui a fait remonter les ventes, c'est que le 24, c'est un des premiers tomes que j'ai acheté. Et ça a été un crève-cœur pendant pas mal de temps, puisque bah, j'ai attendu de compléter le reste de la série avant de le lire.
T'en as acheté le 24 et pas les autres.
Alors, j'avais déjà les tomes peut-être 1, 2 et 3. Et je sais pas, je suis passé dans une Fnac avec mes parents et je leur ai dit « Ah, il y a Yu-Gi-Oh, je veux ce tome !» Alors qu'en fait, c'était beaucoup trop loin dans la série pour moi.
Grim, le nouveau Robin.
Non, mais ça veut dire qu'il devait y avoir un truc à l'époque, une mise en place, une com ou quelque chose de commercial qu'on fait que le 24 était bien plus mis en avant que les autres.
Ah, c'est possible. Et puis ça coûtait 5,45€ surtout. Hein, on avait un bon budget, là, c'était bien.
Pas en 99, oui, en 2003.
En 2003,
en 99,
oui,
on était encore
francs,
en francs.
On était à 35 francs, je le sais, mais Shaman King était à 35.
Bref, voilà, 4 dizaines de milliers de lecteurs, c'est assez pharaonique pour Yu-Gi-Oh! Et en 2004, les volumes de vente des nouveaux tomes étaient équivalents, hein, toujours 4 dizaines de milliers de lecteurs, mais il y a Naruto qui a commencé à décoller. Du coup, c'est Naruto qui était premier des ventes. Ah, et oui. Gun Mars Chronicle aussi.
Ah oui, c'est vrai, déjà.
Déjà.
Voilà, c'était si tôt.
C'était à ce moment-là, effectivement. Bref, donc voilà, il voulait pas faire de l'ombre à Naruto. C'était une autre époque.
Les cartes contre les ninjas, ça devient difficile.
Ah, mais les ninjas peuvent lancer des cartes et te faire très mal avec.
Des shurikens
en forme de cartes. Yu-Gi-Oh! Le manga, il est de retour en librairie et on en parle maintenant dans la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards! Oh, this new crazy mother...
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer Yu-Gi-Oh! Bonjour Grim, bonjour Johnny.
Salut.
Bonjour les duellos.
Nos joueurs de TCG favoris, ouais. Et dites-moi, depuis l'émission de la semaine dernière, il s'est passé un truc un peu dingue dans le monde du TCG manga game. Non, c'est complètement fou, ça se passe à Paris, au musée Grévin. Musée Grévin, c'est le musée des statues de cire bien connu. On peut se prendre en photo avec Nikos, avec Harrison Ford.
Avec la patrouille, ouais.
Avec la patte patrouille, exactement. Et donc, ils ont fait mieux, ils se sont associés avec Toei pour faire une salle consacrée à One Piece. C'est un câble, le cabaret du soleil, et donc il y a une salle entièrement consacrée à One Piece, et on peut être en photo avec toute l'équipe, tout l'équipage du chapeau de paille. Ce qui est assez stylé. Non, pour le coup, si vous avez l'occasion d'y aller pendant les vacances, c'est assez bluffant, c'est bien fait, c'est en taille hors pas réel parce que c'est compliqué de faire ainsi.
Le fil est plus grand que toi, non?
Le fil est plus gros. Alors, il est sur scène. Alors, du coup, je suis pas sûr qu'il soit plus grand que moi.
Si, il doit être. Le selfie. Bah, Frankie, il est plus grand, c'est sûr.
Frankie, il me dépasse de beaucoup. Après, je suis super grand, moi aussi, donc on se rend pas compte aussi non plus. C'est en podcast, la taille.
La voix, on
est plus
petit.
Ouais, c'est ça, c'est clair. Bref, si vous avez l'occasion d'y aller pendant les vacances, en tout cas, c'est assez chouette. One Piece au musée Grévin, c'est assez bluffant. Et bref, c'est pas que ça, parce qu'il y a un autre truc qui a agité l'actualité, puisque en plus, ils ont édité une carte Luffy, musée Grévin, pour jouer au TCG One Piece. Et là, Johnny, ça a été le drame.
Ah bah ça a été, je vais vous raconter rapidement hein, parce que c'est une histoire, c'est un cas d'école quand même. Tout a commencé quand Max m'a dit hey, j'ai une carte pour toi. Et non, en vrai, je vais le raconter vraiment vite, mais il y a cette carte dont Max a parlé, et en fait, elle est limitée à 50 000 exemplaires. Et il l'a donnée quand vous allez visiter, que vous visitez d'ailleurs One Piece ou pas. On vous donne à la fin, bon bah voilà, une carte One Piece pour promouvoir la série. Et donc, ils avaient dit 50 000. Sauf que bon, Max m'a dit ça jeudi soir, je suis allez vas-y vendredi, je vais camper toute la journée, je vais acheter des cartes et tout. Et bah, j'ai eu la flemme hein, parce que 40 degrés, donc je reste chez moi, sauf que le vendredi, bah, la planète entière a été mise au courant. Et le samedi, bah, le musée était complet. Et genre, ils acceptaient plus d'entrée parce qu'il y a plein de gens qui ont su pour la carte et qui se sont dit, bah vas-y, je veux la carte à tout prix. Et sauf que, bah, on a pu voir des vidéos d'une foule entière sur les trottoirs du Grand Boulevard, devant le musée Grévin. Et en fait, il y a eu des débordements. Clairement, le musée Grévin a été dépassé.
Les vidéos, elles sont folles.
Les vidéos, elles font peur. Hein. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent qu'on a eu des bagarres. Et bref. Et clairement, le musée Grévin a été dépassé. Depuis, il y a eu une annonce pour dire que la distribution des cartes était suspendue. En attente de nouvelles modalités de distribution. Et en gros, ce qui compte, bah, c'est imprimer beaucoup plus de cartes que les 50 000 prévues afin de, justement, de contenter tous les fans et les visiteurs, car c'est ça le but, c'est de contenter tout le monde.
Oui, leur but, c'était pas de créer une carte unique.
Voilà. Sauf qu'ils sont un peu débiles, parce qu'en vrai, One Piece aujourd'hui, c'est presque le nouveau Pokémon. Et donc, clairement, le soir même, j'ai fait une photo de quand Vinted a été publié, quand la première photo,
première annonce d'un scalper a été
publiée, a été à 200 balles. Le lendemain, elle était à 500, ça arrivait jusqu'à 1000, et tu fais, bah oui, évidemment, 50 000 dans le monde, tu comptais quoi?
Et après, avec des annonces en dollars côté américain, des annonces en yens pour le Japon et tout, c'est...
Non, mais c'était n'importe quoi. Bon, bref, en tout cas, là, maintenant, c'est arrêté, la carte, vous pouvez plus l'avoir, on attend les nouvelles modalités, c'était il y a 5 jours, donc on attend le retour.
La folie du TCG quand même.
Je pense qu'ils n'ont pas compris que 50 000 exemplaires, c'était pas tant, en fait.
Et c'est ce qui a motivé les gens à dire, vas-y, c'est 500 balles, évidemment.
Ouais, alors que non, pas du tout.
Non, c'est un bout de carton. Alors, en vrai, la carte est pas super belle. Je suis désolé.
Ah, moi j'aime bien. J'aime bien ce petit Luffy qui court comme ça.
Ouais, mais en fait, il y a 3 autres éditions de ce Luffy, ou 4, je sais plus.
Et les je le savais pas. Les autres sont... Mais puis en plus, il y a le petit Grévin, le petit logo Grévin et tout dessus. Il y a un côté un peu Paris et tout. C'est classe. Si vous nous découvrez seulement, maintenant nous sommes la 5ème de couvre, le podcast Manga Hebdo depuis 10 ans. Donc scrollez dans vos applis podcast là tout cet été. Il y aura toujours une émission pour vous et merci de nous soutenir en écoutant, en partageant, en commentant, en posant des questions, en débattant avec nous. Ça compte énormément. Et donc aujourd'hui, on finit cette saison avec Yu-Gi-Oh! Et ça nous fait plaisir parce que c'est un manga qu'on attendait depuis un moment. Un moment qu'on attendait le retour de Yu-Gi-Oh! Si vous n'avez jamais entendu parler de ce titre, c'est possible. Attention, c'est tout à fait possible. Eh bien, si vous pensez qu'il s'agit que d'un manga de jeu de cartes, le début va vraiment, vraiment vous surprendre parce que, en réalité, il n'est pas question que de cartes au début de Yu-Gi-Oh! On découvre Yugi, un lycéen discret qui résout enfin là, un mystérieux puzzle. Et à partir de là, il y a une seconde personnalité qui prend possession de lui, celle d'un esprit ancien qui va punir ceux qui commettent des injustices, ça en les défiant dans toutes sortes de jeux. Un jeu de dés, un pari, une partie improvisée, et à chaque fois, la sanction est autant psychologique que symbolique. Il fait pas vraiment mal, même si ce qui frappe quand même au début, c'est quand même cette ambiance un peu chelou. On est presque plus proche d'un thriller fantastico-jumpesque, dans le sens où c'est un peu gamin dans le côté thriller, mais c'est sombre, je trouve, c'est sombre. Et Takashi, il enchaîne des histoires courtes et il teste plein d'idées différentes, il pose quelques bases dans son univers, mais c'est pas super joyeux tout de suite, quoi.
Bah ouais, c'est vrai que c'est assez violent, l'introduction. Enfin, moi, je l'ai vu comme un manga de possession qui s'appuie sur un mélange de jeu et d'horreur, parce qu'on sent que Takashi, il aime les jeux de manière générale. Donc voilà, Yugi, il va proposer toujours des jeux à ses adversaires, ses antagonistes, les bullies du lycée, enfin ce genre de personnages. Et ouais, en fait, on est vraiment, on sent qu'il y a un lien avec l'Égypte antique. On sait que le puzzle qu'il va assembler, c'est un artefact égyptien, et il va être possédé par un esprit. Donc on est vraiment dans des codes pas très loin de l'horreur, puisque les jeux sont quand même très violents et parfois ça finit vraiment pas bien.
Ouais, mais c'est violent gamin.
Oui, ça reste adressé à un public jeune et ça se sent. Donc c'est, oui, c'est violent, mais en même temps, il n'y a pas tant de conséquences et bah, c'est, oui, ouais, c'est assez gamin.
Il y en a un qui crame entièrement. Hein. Je ne sais pas s'il reste vivant, j'imagine que oui, parce qu'on est dans un violent
on
gamin.
On ne le sait pas, mais, franchement, mais, on ne le sait pas.
Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est assez sombre. Après, vous avez dit qu'il est possédé par, par le Yami Yugi, mais en vrai, on ne le sait pas hein, dans le tome 1. On sait juste que... Il a une personnalité différente, mais on ne sait pas qu'il y a une vraie autre personnalité dans son corps.
Non, ça on ne le sait pas, mais on voit en tout cas qu'il change de personnalité. Non, donc
ça, c'est clair qu'on voit directement.
Tu sens qu'il est possédé par l'œil, qu'il y a un truc.
Après, c'est vrai qu'on est quand même dans un manga des années 90 et c'est assez intéressant d'analyser, comme pour Arms, dont on avait parlé précédemment dans les émissions. Il y a des choses qui diffèrent dans les scénarios d'aujourd'hui. C'est par exemple là, Ushio, là, le maître de la discipline dans les premiers tomes. Bah, on sait tout de suite que ça va être un méchant. J'aurais dit, ouais, j'ai trouvé un beau pigeon, Yugi, je vais l'avoir. Alors que en vrai, dans un manga d'aujourd'hui, on aurait laissé planer le doute, je sais pas moi, jusqu'à la révélation où le héros le découvre et en même temps que nous. Quoi. Et c'est là où je trouve les scénarios ont évolué avec leur époque. Et aujourd'hui, on veut être surpris, avoir de l'originalité, essayer de deviner ce qui va se passer et avoir tort sur les rebondissements. Mais non, mais je dis c'est vraiment cette ambiance de années 90 qui est assez sympa et une histoire de pur divertissement. Là, on n'est pas dans l'intrigue, on est dans... Il n'y a pas de Deus Machina, on suit des jeux et on veut le dénouement et voir que ça nous a amusé, quoi.
Et donc, si on dit au début que ce manga est plus sombre que l'anime, par exemple, vous répondez quoi ?
Bah, je sais que l'anime qu'on a eu en France, il a été assez pollué par 4Kids qui a beaucoup censuré beaucoup de choses. Et en plus de ça, l'anime qu'on connaît, en tout cas que les gens connaissent avec le seller du duel, ça...
Tu le fais bien. Hein.
Ouais, je sais. j'ai appris pendant de longues heures. Cet anime, il tient pas compte des tout premiers tomes. Il arrive au niveau du tome 5, à peu près 4-5. Et du coup, on n'a pas toute cette introduction qui est très gothique, dark.
Et est-ce que c'est que le début qui est plus sombre alors ?
Non, mais c'est, enfin, je crois que c'est comme au Japon. Hein. Dans les premiers tomes, là, nous, en manga, il y a les Jeux des Ténèbres, qui sont souvent des punitions extrêmement cruelles. Au final, c'est des adversaires qui perdent la raison, des victimes d'illusions permanentes, des châtiments psychologiques. Et l'anime, même au Japon, ils ont largement adouci ces scènes parce que ça s'adressait à un public plus jeune. On l'a vu d'ailleurs pour Radiante, on l'a vu pour quand il y a Radiante qui a été édité au Japon.
Ouais, c'est un classique.
On a baissé vers plutôt 8 ans parce que bon, on veut que tout le monde regarde quoi.
On lisse, ouais. On lisse tranquillement. Mais c'est pas évident à lisser ça, hein, ce début de Yu-Gi-Oh! Quand vous reprenez là, l'édition double, quand tu la regardes aujourd'hui, tu fais ah ouais. Pas évident, lycée.
Bah, c'est vrai que quand t'arrives à la télé et que tu te dis bah, n'importe qui peut tomber dessus, montrer des mecs qui se font brûler en direct ou qui finissent complètement fous, peut-être que ça...
Ou qui font un jeu avec un couteau sur une main.
Ouais, entre autres.
Avec des billets.
Mais ce lycée, il est quand même... Il est quand même malade.
Ah bah, le lycée de Domino City, moi j'y mets pas les pieds, en tout cas jamais, parce que c'est super dangereux. Enfin, il y a un mec qui a l'air à moitié possédé, ou en tout cas qui a une double personnalité, qui débarque souvent au milieu de la nuit, ou alors à des moments un peu isolés, où il va lancer des jeux. Et là, il y a des élèves qui finissent fous, blessés, qui disparaissent sans trop laisser de traces, catatoniques.
On sait même pas ce qu'ils deviennent. Genre le mec là qui croit qu'il y a des billets partout, il joue avec les ordures et les feuilles, mais... Où on sait juste ça et ça se trouve c'est toute sa vie c'est ça qu'il a.
C'est très drôle parce qu'en plus le matin on le retrouve une des feuilles en train de jouer et dire ah oh là là il y a des billets partout et il y a juste les autres élèves qui sont là oh bah dis donc qu'est-ce qui lui arrive.
En plus il joue avec des ordures, c'est débile.
Ça a l'air grave.
Moi, les premières pages, j'avoue, elles m'ont fumé quand Yugi a dit « Ouais, je joue avec Pic Pirate en solo oui, c'est trop drôle. » Genre, le mec, il est à l'école, il est au lycée,
ouais,
il
ça,
joue
c'est
à
première
Pic
page,
Pirate.
Je crois, hein.
C'est deuxième ou troisième de, page. Ouais. Je fais « Putain, mais tu joues à Pic Pirate, gars. »
Mais c'est et trop bien Pic Pirate en même temps.
Seul, au lycée.
Alors, ah, j'avoue que
sûr.
Jouer à Pic Pirate tout seul,
au lycée.
C'est moins rigolo.
Non, mais devant tout le monde, en plus. Non, mais non.
Bon, mais pourquoi oui, il va pas non plus se cacher pour jouer à Pic Pirate. Faut être fier de jouer à Pic Pirate quand tu joues à Pic Pirate, quoi. Il y a un moment donné, faut revendiquer, tu vois. Moi, je suis un joueur de Pic Pirate. Je suis Yuki. Non, mais le pire, c'est que vraiment, il est fier.
Ah oui, oui, il est trop content. On sent qu'il est content de jouer à son jeu.
Et il est content, et en plus, pour son grand-père, tu vois, qui est toujours là. Mais c'est marrant aussi, ces blagues dans...
Oui, tout le début, tout où le il début, fait croire où... à Hanzo que son grand-père... Enfin, il dit, oui, c'est en mémoire de mon grand-père que je reconstitue ce puzzle. Elle commence à dire, oh, merde, son grand-père est mort. Et puis, bah, trois pages plus loin, il dit, ah non, mais mon grand-père, il est là, il tient sa boutique, il n'y a pas de souci.
C'est bon, c'est un vieux pervers, oui. Comme dans tous les mangas de ces années 90.
Il ne l'a même pas fait exprès, hein, je pense. Il a juste dit, oh non, mais...
Oui, bah, c'était pour le ressort humoristique. Bah, comme c'est deux potes, après, c'est du ressort humoristique assez...
C'est un mélange de ressort humoristique et de mélange des années 80-90, parce que pour moi, c'est vraiment des personnages de Furio. C'est-à-dire que c'est des lycéens un peu rebelles. Bah, John Ucci, on va le voir un peu après, mais il a appartenu à des formes de gang. Il se bat avec d'autres élèves. Et c'est marrant parce que c'est un élément qu'on retrouve à travers toute la série. Le fait que John Ucci, c'est un mec qui sait se battre. Et qui hésite pas à rentrer dans le tas et à bah, défendre ses potes après. Parce qu'au début, il essaye de faire en sorte que Yugi devienne un homme.
Oui, et de soulever la jupe de leur pote.
Oui.
Voilà, ça c'est bien, dis donc. Ah, ça donne pas une bonne image des années d'aujourd'hui.
C'est les années 90 ouais. Du manga, quoi.
Non, mais c'est vrai que cette vibe années 90, moi je l'ai vue direct avec la grosse main là, de Joey Jonouchi.
De Joey, ça y est, il a sorti le nom, il a dit Joey.
Joey, oh là là. Mais je trouve que c'était incroyable. Et ça m'a rappelé en fait le jeu vidéo sur Master System 2, Alex Kidd, quand on jouait à Pierre Feuille Ciseaux, tu sais, il y avait toujours cette grosse main qui changeait, etc. Et d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je crois qu'avant de créer le manga, l'auteur Takahashi, il a fait plein de petits jobs, dont des jobs liés aux entreprises de jeux vidéo, et il a dit que c'était un gros amateur de mahjong, de shogi, de jeux de cartes, de jeux de rôle, et bref, c'est de là où est venue la création de Yu-Gi-Oh! Quoi. Le concept de Yu-Gi-Oh! C'était, vas-y, moi j'adore les jeux, je vais en faire un dans mon manga, avec ce côté petit thriller psychologique, punition un peu, jugement moral.
Bah, je vous propose du coup de parcourir les jeux de ce premier tome double, puisqu'on a un panorama assez complet qui nous emmène jusqu'à Magic and Wizard. Et le premier, c'est donc un jeu où il défie un type en mettant des billets de banque sur sa main et un couteau. C'est vrai. Et donc, il faut planter le couteau dans les billets, récupérer le plus de billets possible sans se planter le couteau dans la main.
Et c'est là que je me dis que j'ai quand même découvert ce manga à 9 ans à peu près. Et non, j'ai mais vu voilà. Ça et
t'as dû vouloir faire pareil.
Et t'as dû te dire trop cool.
Ah non, là, ça me faisait vraiment peur. En fait, j'étais vraiment impliqué dans l'action et je me disais, mais c'est horrible ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'ai peur pour eux. Je vois leurs mains transpercées. Là, c'est affreux. Hein.
Mais non, mais du coup, ça veut dire que ça te mettait, en tant que jeune lecteur, ça te mettait de l'ambition directe dans l'histoire.
Ah bah là, c'est instantané.
Parce qu'en fait, il n'est pas là pour sauver le monde. Tu vois, on avait lu Dragon Ball, on avait lu plein d'autres trucs à ce moment-là. Et donc, bah voilà, fallait récupérer les boules de cristal, fallait sauver le monde, fallait sauver un tel ou un tel. Là, ça te mettait de l'ambition de... tu mets ta main au jeu en te plantant un couteau dans la main. Et effectivement, quand t'as 9 ans, tu fais « Waouh !»
Ouais, mais après, tu meurs pas, hein. T'as du sang.
Tu meurs pas, enfin bon. T'as mal quand même.
Putain, en vrai, moi j'aurais planté jusqu'à. Ouais, mais t'aurais eu tous les billets. Tu peux payer une partie de ce que t'as gagné pour faire une chirurgie. Enfin, aujourd'hui, t'en foutrais. Enfin, ça, j'aurais mal.
Tu serais reparti avec les 400 000 yens.
Ouais, c'est possible.
400 000 yens à l'époque, je sais pas. Je sais pas les conversions.
4 000 euros.
4 000 euros.
Je sais pas, ils avaient 200 000 yens, je sais plus.
Ouais, c'est pas ouf non plus alors.
C'était pas un truc de malade.
Après, si, quand t'es au bahut, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus malade.
Quand t'es au lycée, ouais.
Ouais, enfin bon, tu gagnes plus en revendant des cartes de One Piece TCG.
Non, mais par contre, c'est vrai que le deuxième jeu. Moi, c'est celui où je m'attendais pas à le dénouement final. Je savais
c'est
pas comment
il
allait faire.
Il faut juste lancer un dé, quoi. Ouais.
Faut lancer un dé et en gros, c'est Yugi qui fait un chiffre et pour que l'autre il gagne, il faut qu'il fasse le même chiffre ou moins. Et Yugi il fait 6. Du coup, bah le mec il fait bah c'est bon, on n'a pas besoin de jouer, j'ai gagné. Et là, du coup, il prend le dé et lui balance à la gueule. Le dé se casse en deux et il y a un 1 et un 6 qui apparaît par terre. Eh bah ça fait 7 et t'as perdu. Et là j'avoue, je ne m'y attendais pas.
Mais pour moi c'est une énorme arnaque cette fin de chapitre.
Moi je pense que c'est une amorce pour le reste de la série, on y reviendra quand on parlera du jeu de cartes de Magic and Wizard. Mais Yugi, c'est un peu un gros tricheur quand même.
Ouais. Ouais,
non, il gère les règles. Et en fait, moi, le problème que j'ai dans ce Yugi, c'est les conclusions de Yami Yugi. Et toi, après les Jeux des Ténèbres, il dit toujours, je l'imagine bien avec la voix d'Horatio, toi, des experts de Miami. Genre à un moment, il dit, monsieur le réalisateur, puisque tu déformes la réalité avec la caméra, il vaut mieux te dissimuler en plaçant un voile de mosaïque devant tes yeux. D'ailleurs, ce jeu m'a rappelé un épisode de Black... Ah non, ça c'est moi. D'ailleurs, de ce jeu-là, à un moment avec le dé, c'est qu'il floute son visage et c'est un peu comme un épisode de Black Mirror, toi, avant l'heure. Donc il est fort Takahashi. Moi, j'ai bien aimé.
Mais le coup des mosaïques, en fait, j'avais totalement zappé. Je m'en suis souvenu. Donc, en relisant, j'ai fait « Ah, mais oui, il y a le coup de la mosaïque. » Alors oui, c'est horrible. En plus, tu laisses le mec comme ça pour toute sa vie, tu sais pas. Bah, voilà. Et en fait, c'est un autre truc que le frère jumeau Masashi Kishimoto, Seishi Kishimoto, avait utilisé dans son autre manga
Blazer Dry.
Non, Crimson, Crimson Wolf.
Ah.
Et il y a un moment donné, il y a un personnage qui a ce pouvoir de la mosaïque et j'ai fait, mais attendez, en fait, ça venait de là, ça j'avais totalement Yu-Gi-Oh. Oublié. Mais oui, ça venait de Yu-Gi-Oh, c'est sûr. Le troisième jeu, ça se passe dans un karaoké. C'est le plus what the fuck ou pas?
Ah, est-ce que c'est le plus what the fuck? Moi, je l'ai vu venir à Milan. Ça se voyait trop.
Oui, non, mais alors, l'idée.
L'idée, c'est n'importe
l'idée
quoi.
D'avoir un mec qui te harcèle pour que tu viennes l'écouter chanter.
C'est n'importe quoi. C'est, n'importe quoi.
Oui, c'est ça, totalement c'est... what the fuck.
Et lui aussi, c'est un personnage de Furio parce qu'il a clairement la banane et tout
bah,
ça.
Oui, mais c'était
mais
Elvis.
Il aime
c'était Elvis. c'est pour ça. Mais non, mais même le truc utilisé, là, le sang de Pierrot, c'est trop flippant déjà, le truc avec.
Des petits clowns.
Mais c'est là où tu dis, ça se trouve, il voulait faire un manga d'horreur, toi. Le mec de Yu-Gi-Oh! Il a fait plein de trucs psychologiques. Ça ressemble un peu à. Limite, c'est le saut avant saut, tu vois.
Ouais, mais il y a un peu de ça. Hein.
On va jouer à un jeu, c'est l'heure du duel. Bon, on n'est pas loin. Hein. J'attends de voir Jigsaw dire c'est l'heure du duel quand même.
Mais t'aimes bien les gimmicks, toi, Joe?
J'aime bien quoi?
Les gimmicks.
Ouais, j'aime bien les gimmicks. Bah, c'est ce que je disais avec les experts Miami. Hein. De toute façon, hein, tu sais, le lieutenant Kane, il arrive, il fait sa phrase d'accroche pré-générique. Après, on découvre le corps, la punchline d'Horatio, le gros plan sur lui. Et après, on commence avec l'intro de The Who. Toi. Et ben là, c'est pareil. On commence déjà à avoir Yu-Gi-Oh! Qui fait « C'est l'heure du duel !» Et du coup, ça commence.
Et toi, dans ta tête, t'entends
bah, « franchement, j'entends vraiment le mix des deux. J'entends vraiment le mix des deux. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que on en parlera peut-être après plus tard pour la traduction. Je ne sais pas si en vrai, c'est à traduire du japonais le « C'est l'heure du duel » parce qu'il arrive deux fois de suite pour deux jeux. Après, ça s'arrête. Et après, ça reprend. Du coup, peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait une phrase d'accroche emblématique qu'il fallait introduire. Ils ont fait des tests. Et je ne sais pas, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus systématique tout le temps sur tous les jeux.
Et ça ne l'était pas au début dans la première trad?
Bah ça, justement, j'ai pas pu vérifier.
Alors, j'ai revu un petit peu la première trad et dans, en fait, c'était pas tant présent. En tout cas, c'est assez marrant parce qu'à partir du quatrième jeu qu'on va développer un peu après, il y a la première fois que Yugi se transforme, entre gros guillemets, face à ses amis. Enfin, en tout cas, face à des gens qu'il connaît, et les gens entendent sa voix. Et dans la nouvelle trad, justement, il y a Anzu qui remarque ce fameux « c'est l'heure du duel » et qui commence à se dire oh, « mais quel est cet homme mystérieux qui m'a protégé ?»
Avec une belle voix qui dit « c'est l'heure du duel ».
On dirait Yugi. Non, c'est pas Yugi, il a beaucoup trop confiance en lui.
Ouais, est-ce que dans le quatrième jeu, c'est carrément une prise d'otage dans un restaurant de sa pote Anzu. C'est là aussi, on est sur un fait divers dramatique, quoi. Et qui se termine et qui se boucle par un jeu de roulette russe bizarre, avec un doigt et des pistolets.
Ouais, c'est faut que tu choisisses un doigt que tu vas utiliser et t'as pas le droit d'utiliser l'autre, enfin les autres. Et du coup, bah le tueur qui a son flingue, il dit bah je prends l'index de mon bras droit, évidemment, comme ça je pourrais te buter. Et l'autre il fait bon bah ok, moi je prends le pouce. Et là Yugi, on s'y attendait pas, il avait un briquet parce que Yugi il fume évidemment. Parce que l'autre, il avait une clope. Et ben Yugi, il fait, bah tiens, je t'allume ta clope. Eh, attends, te tue, vas-y, allume ma clope. Et puis après, il laisse le briquet sur sa main.
Et ça finit de manière totalement dramatique. On est sur un fait divers avec une prise d'otage d'un adulte envers une adolescente qui termine super mal. Enfin, c'est,
Et d'ailleurs, pour brûler comme ça, le mec est en train de se servir. Parce qu'il est en train de se servir du whisky. C'est une bouteille de whisky infinie quand même. Parce qu'à la fin, il en a vraiment partout sur son pantalon. Le verre, il déborde. Enfin, il n'y a pas 75 centilitres dans cette bouteille.
Dans un manga. Je suis pas d'accord.
Non, mais c'est là où tu te dis les années 90, ils se permettaient des choses.
Ah, bah aujourd'hui,
ils se permettent plus de la même manière aujourd'hui.
Ça veut différemment. Pas être, ouais, on fait ça différemment.
C'est très différent. Un Chainsaw Man, c'est tout aussi violent, mais pas de la même manière.
Mais c'est pas Chainsaw Man, c'est adressé à un public un peu plus âgé quand même.
Ouais, mais c'est même magazine. Hein.
Oui, c'est vrai.
Après, c'est Chainsaw Man, c'est clairement affiché fantastique. Là où Yu-Gi-Oh, on est quand même dans du collège, lycée.
Au début, on n'est pas dans
contemporaine.
Effectivement, au début, on est dans du semi-fantastique puisque tout est avec des jeux technico-réalisables. Il n'y a pas des super pouvoirs, non. Si ce n'est qu'il change de personnalité et qu'il apparaît la nuit comme ça devant les gens.
Ou qu'il voit des mosaïques dans ses yeux. Mais oui, à part ça, à part ces trucs-là.
En tout cas, je retiens qu'enfant, quand je les ai lus, bon, moi, ça me prenait vraiment à fond de voir tous ces personnages, tous les enjeux qu'il y avait autour de ça. Le côté ténébreux qu'il y avait à travers ce manga. D'ailleurs, je me demande si ça fait pas partie des pierres qui ont amené au fait qu'aujourd'hui je sois fan de films d'horreur. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, mes parents me lisaient encore des choses pour m'aider à m'endormir. Et ils ont lu, du coup, les premiers tomes de Yu-Gi-Oh!
Peut-être que ils t'ont interdit le manga après.
Peut-être que c'est début des années 2000 qui veut ça, mais ça les choquait pas non plus.
C'est marrant, effectivement, parce que je ne lirais pas forcément à 9 ans.
Bah, peut-être qu'ils t'ont menti.
9-10 ans, si, il y a moyen.
Mais je sais que mes parents les avaient vus et m'avaient dit bah, c'est ok, il y a une sentence, il y a un méchant, il fait des trucs de méchant, il morfle.
Voilà, il paye.
Non, mais ouais, t'as raison, c'est clair.
Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je les relis, en fait, ça m'amène presque. À l'époque, j'étais investi. Aujourd'hui. Peut-être que j'en rigole beaucoup plus parce qu'il y a un côté vraiment très poussé, over the top dans toutes les situations. Tout le monde réagit de manière très exagérée. Bon, c'est aussi un des gimmicks du manga, c'est les réactions très poussées. Mais là, je sens que ouais, on est dans des situations presque banales qui deviennent très exagérées où il y a un mec qui fait une prise d'otage. Bon, ça. Alors, je ne vais pas dire que c'est banal, parce que, heureusement, mais quand Yugi arrive, la situation devient automatiquement exceptionnelle et se termine par quelque chose de tragique aussi, mais le méchant est puni.
Ouais, sachant que tu es au chapitre 4, 5, 6, t'as compris. T'as compris en tant que lecteur, en tant que jeune lecteur, peu importe ton âge, t'as déjà compris que ça allait se finir par Yugi qui se transforme et qui va régler ça par un jeu, que ça va être exceptionnel et qui va gagner. Mmh. Donc au final, même plus jeune, oui, tu te dis ça va aller, ça va monter, ça va être exceptionnel, ça va être what the fuck, mais Yugi gagne à la fin, donc tout va bien. Et c'est ce qui marche aussi d'ailleurs avec le chapitre de la voyante et du chloroforme. Là aussi, ça part en live très très vite et c'est résolu de manière tout aussi exceptionnelle.
Ouais. Il fait un jeu, en plus c'est un voyant du chloroforme donc qui prédit l'avenir avec des trucs et il essaie de choper Hanzo du coup parce qu'il est tombé amoureux d'elle et donc il fait des fausses prédictions mais Yugi il l'a démasqué évidemment et donc il va faire un jeu où il pose une bouteille de chloroforme sur la table avec des feuilles en dessous et là chacun doit tirer la feuille sans faire tomber la bouteille et si la bouteille tombe, bam! Ça sera vous qui prenez tout le nuage de chloroforme, évidemment, parce que c'est très ciblé.
J'ai lu tout ce chapitre en pensant que c'était une voyante.
Non, c'est un voyant.
Je sais, mais maintenant que tu me le dis, je réalise.
Il voulait choper Hanzo, il est fait « Ah, Hanzo, je t'aime depuis tout le temps, et là, je peux arriver à toucher ta main, je suis trop content. » C'était un mec. Et du coup, donc voilà, la bouteille de chloroforme tombe, et c'est bien entendu le nuage qui va sur le méchant.
Et après, chapitre suivant, on fait un jeu d'arcade.
Ouais.
C'est le hockey sur.
Hockey sur table,
jeu du palais.
Ouais, c'est ça, oui. Le jeu du palais. D'ailleurs, franchement, celui qui a eu cette idée, je me suis dit, mais pour comment t'as imaginé un truc comme ça? Genre, un palais glacé, dedans, on va mettre une petite fiole avec des billes explosives, et comme ça, quand c'est fini, on va tous crever, ça va exploser. Je fais, qui a eu cette idée?
Il devait avoir un pote qui s'appelle Togashi, je sais pas.
Oui, parce qu'il joue sur une grosse table en fonte.
Une plaque en fonte.
Pour faire la cuisine, ouais.
Ouais, et c'est là que j'ai commencé à me dire, le lycée de Domino City est très dangereux. De un, ils préparent la fête de l'école. En disant, on va faire un espace de jeu où on va mettre un pic pirate grandeur nature, d'ailleurs. On revient à ce qu'il y avait dans le chapitre 1. Et là, il y a les élèves de terminale qui débarquent avec une énorme plaque en fonte et qui défoncent tout le monde en les percutant avec la plaque.
En vrai, ils auraient dû être morts.
et plus tard, Yugi revient la nuit. Donc les mecs, ils sont restés là toute la journée et c'est la nuit, le lycée a fermé, mais ils sont encore là avec leur plaque en fonte qui a pris le soleil toute la journée, donc qui est bien chaude. Et là, il arrive avec son jeu de hockey et je me suis dit, non, mais je ne mettrai jamais les pieds dans ce lycée, là, ça devient vraiment chaud.
Et sachant que j'habite après, c'est une histoire avec un scorpion, un vrai scorpion vivant qui peut te tuer.
Ouais, j'avais pas compris ça au début qu'il était vivant. Moi, je pensais qu'il y avait juste encore son venin, mais après, il dit qu'il est vivant parce qu'il avance. Mais ouais, c'est n'importe quoi.
Oui, parce que tout le monde a un petit scorpion vivant autour de son cou. Ouais.
C'est marrant,
c'est un truc classique des années 90.
Et on a déjà les prémices des scalpers de sneakers. Et j'avoue, ça m'a fait rigoler. Parce que c'est vraiment cette histoire-là. C'est le scalper sneakers par excellence. Et c'est à ça. En gros, il y a des pièces qui sont dans la chaussure. Il y a un scorpion dedans. Il faut arriver à retirer les pièces. Et chaque pièce vaut 100 000 yens, je crois.
Ouais,
et
peut-être un truc comme ça. Ouais.
Et Yugi, lui, il est pas bête. Hein. Il se dit évidemment que l'autre, il est cupide. Il a tenté quelque chose, mais il a perdu.
Oui, et puis surtout, de toute façon, c'est Yugi, alors fallait qu'il gagne. Oui, en tous les cas.
Mais par contre, dans l'histoire, c'est John Ushi qui a un trou dans sa chaussure. Ça, c'est un peu dégueulasse.
Oui, bah tout le monde n'a pas des super chaussures, nickel. Ouais. Et donc là, on arrive enfin au Magic and Wizard. Ça y est, c'est le début du jeu Yu-Gi-Oh! Ça vous a fait quoi de reprendre ce chapitre en se disant « tout est né là » ?
Eh ben, j'étais trop content. En fait, quand c'est arrivé, j'ai fait « putain, ça y est, c'est ça ». C'est ça, c'est à ce moment-là qu'il passe. C'est pour ça que j'ai fait un historique de tous les jeux. Je fais « putain, c'est le 9e jeu, ok, il est arrivé ». Non, j'étais vraiment trop heureux de voir ce jeu-là. Et d'ailleurs, en vrai, c'est les nombreuses lettres des lecteurs qui ont demandé les règles du jeu, qui ont convaincu l'auteur Kazuki Takahashi d'en faire le cœur de la série. Parce qu'à la base, bah, comme on l'avait dit dans l'émission précédente sur les TCG, Yu-Gi-Oh! Ça devait pas être un manga sur les cartes. Et bref, le thème central, c'était vraiment pas ça du tout. Mais du coup, le fait que plein de gens demandent à connaître les règles, à connaître où est-ce qu'on peut acheter le jeu, parce qu'il y en a aussi qui ont demandé ça, il a reçu toutes les lettres de lecteurs, et il a fait « bon, bah, peut-être qu'on va se focaliser là-dessus, et voilà ».
Et alors, il y a un autre truc qui t'a choqué aussi dans ce chapitre-là, c'est une référence.
Non, mais il y a trop de trucs. En vrai, il y a énormément de choses qui choquent, mais c'est vrai qu'il y en a une en particulier, c'est qu'à un moment, ils expliquent « c'est quoi Magic and Wizard ?» Et il y a, je sais plus, je crois que c'est John Witchy, il fait « c'est comme le jeu de la tapette ?» Je fais « c'est quoi le jeu de la tapette ?» Alors, je pense que ça a été un vrai jeu qui existait.
Mais je peux le googler, ça existe le jeu de la tapette ?
Bah, du coup, quand j'ai cherché, j'ai trouvé le jeu de la tapette. C'est parce que je pense que c'était un truc comme une bataille. En gros, chacun posait ses cartes et il fallait taper sur les cartes. Et tout ce que tu arrivais à prendre avec ta main, eh ben, tu le gardais pour toi. Du coup, en gros, tu pliais un peu les cartes. Et c'est pour ça que tu avais plein de cartes qui étaient un peu bombées. Mais enfin, quand tu cherches sur Internet, t'as cette histoire de cartes bombées et de tu tapes très fort pour avoir le plus de cartes possible.
Dans la main, attraper.
Mais c'est vrai que quand j'ai lu le jeu de la tapette, j'ai fait, mais c'est quoi ? Du coup, c'est quoi cette traduction ? Est-ce que c'est la traduction ancienne par rapport à l'époque de 1990 ou un truc qui existait aussi au Japon ? Ça, c'est possible.
Tapette tout game over. Peut-être, on sait pas. Aucune idée. Mais effectivement, voilà, il fait son premier match contre Kaiba, qui s'avère être un personnage qui va être extrêmement important dans tout le manga.
Et qui va être un personnage très intéressant, bien développé justement par rapport à cette introduction qu'il a, où bah là c'est le mec de la classe qui est riche et qui veut tout pour lui en fait, et qui est vraiment pas cool.
Enfin, ah non, tu l'aimes pas du tout, tu le vois arriver.
Non, non, c'est un personnage que j'ai détesté pendant très longtemps, avant la relecture et avant de revoir beaucoup de choses, mais pareil, on en reparlera après. Mais ouais, c'est un personnage qui devient chouette, mais au début, il est insupportable.
Non, mais le mec se balade avec une mallette en acier renforcé, enfin, j'imagine acier renforcé, avec plein de cartes. Genre, t'es comme ça, tu vas au lycée, t'as ta mallette plein de cartes. Mais...
Oui, bah tu vas bien au lycée avec un pic pirate.
Ouais,
tu peux...
ouais. Ouais, non, c'est vrai, mais il vaut 5 balles, toi.
C'est Domino City, tout est possible.
Il est prêt à fracasser des gens avec sa mallette, c'est ça qui fait peur.
Ah non, mais il est... Oui, c'est vrai qu'il a défoncé Yugi quand il a tenté le truc. Mais c'est marrant parce que ce jeu-là, donc, c'est pareil, il y a encore le dénouement avec Yugi et Yugi qui gagne. Et là, on sent que c'est drôle parce qu'il y a quand même quelque chose qui est enclenché avec ce personnage-là, c'est qu'il y a cette sentence qui arrive, qui est « on va t'enfermer pendant, je ne sais plus, une journée entière, pendant 24 heures, avec les personnages des cartes. Et si tu arrives à survivre, tu deviendras sûrement un super bon joueur. » C'est-à-dire qu'il y avait quand même déjà cette notion de « peut-être que toi, tu vas réussir à survivre. Et si tu survis, tu seras aussi fort que mon grand-père et tout. » Donc, il avait déjà imaginé ce personnage pour la suite de l'événement.
Et la suite, bah, ça sera dans le tome 2 qui n'est pas sorti, mais là il y a le tome 1 qui est disponible de cette réédition de Yu-Gi-Oh!, de l'édition Millennium de Yu-Gi-Oh! De Kazuki Takahashi. Comment vous l'avez trouvé ce manga, le livre ? Là je parle de l'objet, je parle du bouquin, de ce que vous avez eu en main.
Eh bien moi, la première chose que j'ai faite, j'ai pris ma balance de cuisine. Et pour peser ce tome, parce que c'est quand même 623 grammes, c'était très lourd, c'est très lourd à porter dans mon sac.
C'est parce que t'as des petits déjà... bras aussi. Hein.
Ouais, peut-être, mais j'ai aussi beaucoup de choses déjà dans mon sac. Mais en gros, non, il pèse son pesant d'or.
623 grammes donc.
623 grammes sur ma balance de cuisine, attention, pesez le vôtre, vous verrez. Hein. J'ai tout gardé. Mais moi, j'ai trouvé que dès les premières pages intérieures, on sait que l'édition va être top. Parce qu'on a un effet métallisé doré, je sais pas comment on appelle ça, je suis pas chef de fab, désolé.
Une dorure à chaud.
Une dorure à chaud, merci Grim, toi qui connais, bravo. Avec, y a une superbe illustration de Yami Yugi, du Black Magician et de la Magicienne des Ténèbres. J'ai fait un mélange de anglais et français, vous aurez compris. Bref, c'est trop stylé et au final, ça représente la carte de tarot, le magicien. Et ce qui est logique parce qu'au final, il y aura 22 tomes Millennium qui représentent les 22 arcanes majeures du tarot.
Eh ben, c'est classe. Mais après, la trad des noms, du coup.
Ah oui, ça enfin ça, l'édition d'origine avait déjà les traductions japonaises, ce qui fait que d'ailleurs, pareil, à l'école et au collège, j'étais très isolé avec tous ces gens qui me parlaient de Joey et Tristan et Théa.
Ah putain, Tristan, c'est vrai.
Mais de qui vous parlez, en fait? Parce que moi, j'avais lu le manga, parce que j'ai découvert via un épisode de l'animé, et après, sur la même période, il y a des potes à moi, donc dans la cour d'école, qui commençaient à ramener des Dragon Ball à l'école et tout ça. Et j'ai commencé à dire, mais moi aussi je veux lire ça, ça a l'air génial les mangas, c'est quoi ces trucs en noir et blanc avec des dessins trop cool et des personnages qui ont l'air épiques. Et bah, comme j'avais vu un épisode de Yu-Gi-Oh, j'ai demandé Yu-Gi-Oh. Et donc j'ai découvert, moi, Jon Ouchi, Honda et Anzu, et pas du tout ces personnages qui ont été renommés pour l'animé. Merci 4Kids et les Américains qui...
T'aimes bien les citer.
Qui renommaient. Ah bah oui, parce qu'ils ont... Pour moi, ils ont fait du mal, en tout cas.
Et l'édition en elle-même, qu'est-ce que t'en penses? Elle vaut son pesant de cartes, comme je disais dans l'intro?
Je trouve que dans l'ensemble, l'édition est belle. Déjà, la jaquette, les illustrations sont magnifiques. Et Kana a dévoilé les illustrations qu'il y aura en couverture, plus les cartes de tarot. Et je trouve que c'est vraiment très, très beau. Donc, en dessous de la jaquette, sur la couverture, on a des hiéroglyphes. Tout ça, ça marche très bien. Sur la jaquette, il y a un petit cold foil, donc une dorure à froid. Donc, un effet un peu brillant qui rend très bien. Et bah, si on ajoute la carte de tarot et en soi, bah, les illus qui fonctionnent, enfin le visuel qui fonctionne bien, je trouve que c'est très beau. Le seul défaut, mais c'est très subjectif, c'est que le papier couché ou aussi appelé glacé, enfin les gens connaissent ça sous le nom
de papier glacé. Comme sur l'édition Full Metal Alchemist, voilà. La réédition par exemple.
Oui, par exemple. C'est vrai que moi je suis pas fan sur du manga, je trouve que le noir et blanc vit très bien sur un papier un peu plus texturé, mais bon après ça reste un goût très personnel et de...
Et bon, on peut lire quand il pleut quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, comment ça résiste mieux à la flotte.
Ou quand tu pleures, tu fais « Non, j'adorais ce méchant, pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ils l'ont en train de brûler ?»
Mais après, il y a plein de trucs hein, dans cet tome. Alors, c'est pas une édition double, parce que normalement, il y a 38 tomes. Du coup, là, on va en avoir 22. On va dire que c'est double plus plus.
Ou double moins moins.
Bah non, parce que du coup, ça ferait ouais. 19.
19 ou mais 22, ça faisait 44.
Oui. D'accord, ok, dans ce sens-là.
Oui, c'est 1,5 okay. Plus.
Wow, le bug des chiffres. Bon, bref, par rapport, si vous avez l'édition double qui était sortie en 2010 et si vous avez l'édition d'avant, celle d'original, sachez que là, le format est plus grand. Donc, on a quand même des cartes, des pages qui sont beaucoup plus grandes, un papier de meilleure qualité au final, même si c'est un papier couché. La nouvelle traduction qui a été entièrement refaite, nouveau lettrage, voilà, c'est plus moderne. Les illustrations, c'est les illustrations donc, de l'auteur. Qui, même après avoir fini la série, il s'est dit vas-y, je vais reprendre et je prends avec la couleur, j'aime bien la couleur, et donc c'est lui qui a fait ça. Et voilà, les pages cartonnées. Il y a des pages bonus, chaque tome aura une postface de l'auteur, donc en 2007, parce que c'est sorti en 2007 au Japon, et il nous donne plein d'infos dedans. Là, je vous spoil un peu le tome 2, mais par exemple, il va dire qu'il est parti en Égypte pour apprendre les trucs, les mystères occultes, etc. Donc il laisse quand même pas mal, il est assez verbeux dans ses postfaces, donc c'est cool. Et un truc important, c'est qu'il a retouché des cases et des dessins. Et donc, il y a même un exemple avec Yugi qui est super moche et Yugi après. Et j'ai fait, oh, t'as bien fait de le retoucher.
À l'époque, il avait pas de nez.
Ouais, c'était très bizarre. Très bizarre. Mais donc voilà. Il y a Grimm, c'est une bonne Millennium augmentée, quoi.
Alors maintenant, parlons de Yu-Gi-Oh! Dans son ensemble. Parce que, bah, voilà, là, on a fait le point sur ce volume qui est disponible, que tout le monde peut lire. Mais si on prend un peu de recul, est-ce que ce manga vaut la peine d'être lu si on connaît déjà l'anime? Je pense que la réponse est clairement oui.
Ah bah oui, complètement. Parce que déjà, dans l'anime, il manque des bouts. Enfin, il manque le début. Ça s'axe énormément autour du jeu de cartes. Au point que... Même après l'apparition de Magic and Wizard, il y a encore des petits chapitres sur des jeux un peu différents. D'ailleurs, des jeux qui ont tous l'air trop cool. Enfin, je sais que quand j'étais gamin, je rêvais de voir ces jeux en vrai. Jusqu'à ce que je vois le jeu de rôle. Il y a une partie de jeu de rôle avec Bakura, donc personnage très important qui arrive puisque ça deviendra un antagoniste majeur. Et j'avais trouvé ça fou. Et je sais que dans l'animé, cette partie jeu de rôle a été retournée en jeu de cartes. Au point pour axer encore plus là-dessus.
Ouais, parce que le jeu de rôle, personne ne connaissait à l'époque, évidemment.
Bah, ça intéressait moins de gens, en tout cas.
Ouais. Non, puis il y avait aussi ce truc de Donjons et Dragons, où c'est des satanistes qui jouent à Donjons et Dragons. C'est peut-être aussi pour ça que on était un peu décrié, mais moi je trouve que le manga...
Alors que c'est américain totalement, Donjons et Dragons.
Mais le manga, est... c'est vrai qu'il est beaucoup plus sombre que l'anime, hein, donc au final, ça vaut pas mal le coup de voir peut-être déjà l'œuvre originale, en tous les cas. Et Takahashi, tu vois, on sentait qu'il voulait faire un manga autour des jeux et de la psychologie des joueurs, et il s'inspire de tout ça, je l'avais dit au début, toi, ce concept de tension, de peur, de justice morale, qui sont là très très vite. Et après, il y a l'arrivée des cartes, certes, mais on a vu que ça a évolué, donc après, avec l'aventure, les duels stratégiques, la fantasy, bref, la compétition. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce tournant dans le manga que vous ne voyez pas forcément dans l'anime, parce que dans l'anime, comme c'est déjà adouci, on fait bon, bah, ils font des petits jeux, et après, il y a les jeux de cartes, bah, on a l'impression que c'est sur la même, le même niveau, quoi, la même échelle, ce qui n'est pas vrai dans le manga.
Et alors, est-ce qu'on essaye de parler aux lecteurs de Hunter x Hunter, comme moi par exemple, en leur disant... Attention, ne vous fiez pas à ce tome 1 de la nouvelle édition. Il va falloir avancer un tout petit peu. Mais Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh, ça se croise. Hunter, Yu-Gi, Yu-Oh, Hunter. Beaucoup de X.
Bah, c'est vrai que quand j'ai lu Hunter pour arriver à Grid Island, pour avoir justement parlé de l'émission TCG, et aussi pour... parce que du coup, j'ai vraiment découvert Hunter assez récemment. Je me sens un peu honteux par rapport à ça. Mais en tout cas, en lisant les premiers chapitres et surtout l'examen de Hunter, j'ai senti des similarités avec donc l'arc qui arrivera dans la réédition, sera dans les tomes peut-être 2-3 en tout cas. C'est l'arc de Kaiba Land, donc un passage où Yugi est soumis, avec ses amis, ils sont soumis à un tas d'épreuves dans une tour qu'ils doivent grimper. Et en fait, on n'est pas très loin de pas mal de choses qui se passent dans l'examen de Hunter à base d'énigmes, toujours de défis où la solution n'est pas là où tu le crois. Enfin, c'est toujours des petits twists comme ça, des petites notions justement de stratégie et de réflexion qui amènent du coup des rapprochements entre les deux séries.
Là où 10 ans avant, dans la tour muscle dans Dragon Ball, il n'y avait pas d'énigmes.
Bah là, c'était la bagarre.
C'était la bagarre et que la bagarre. Et ça marchait très bien. Kaiba et Yugi, c'est quand même un binôme un peu inséparable, malheureusement.
Je pense que c'est une espèce de couple toxique. En lisant dans les tomes, donc là, c'est le Battle City, donc les tomes qui vont de 17 à 31, qui est un grand tournoi de cartes au sein de Domino City. Kaiba et Yugi se retrouvent à faire équipe malgré eux, puisqu'ils sont rivaux depuis le début. Kaiba, c'est une forme de Vegeta, finalement. Et plusieurs fois, il lui répète « Oh là là, t'as vu ça ? C'est étonnant qu'on soit en train de marcher tous les deux dans la rue, alors que j'en pourrais en profiter pour t'écraser. » Tu te dis « Mais en fait, là, je sais pas ce que t'as vraiment envie de faire. Est-ce que t'as vraiment envie de l'écraser ?» Surtout que tu parles de jouer aux cartes, donc ça peut amener à plein de suppositions un peu étranges.
Ouais, je pense qu'il a vraiment envie de l'écraser. Mais de toute façon, Kaiba, il a toujours cette personnalité... Hein. Très violente, très cruelle. Toi, les débuts, toi, il mentionne un truc avec Junouchi au tout début quand il arrive dans la boutique en disant « Ouais, t'as pas les bonnes cartes, je te battrai avec toutes mes cartes puissantes. » Et d'ailleurs, c'est un truc qui est pas trop vrai aujourd'hui dans le monde du TCG parce que t'as la plupart des decks méta, comme on dit. Donc,
Un
deck méta, c'est à force de jouer... Il se dégage certains decks qui sont forts par rapport à d'autres, mais qui sont jamais, il y en a jamais un qui est plus fort que tous les autres. Ça tourne toujours. Donc, il y a souvent, je sais pas, 4-5 decks qui dominent ce qu'on dit la méta, donc le game du moment. Et donc, c'est ça, c'est que aujourd'hui, t'as pas besoin de dépenser 1 milliard d'euros pour avoir un deck méta. Il y a même des decks méta qui coûtent même pas 50 balles, tu vois. Donc, on peut s'en sortir. Là où dans Yu-Gi-Oh! Ce que Kaiba mentionne, c'est vas-y, cette carte, eh ben, elle est super rare et du coup, elle est super chère et super puissante. Si je l'ai, je vais forcément gagner. T'as pas ça aujourd'hui dans le TCG. Mais quand t'as une carte qui est puissante et potentiellement chère, t'as toujours une autre carte qui l'annule et de potentiellement moins chère, quoi. Mais c'est vrai que t'as ce truc de Kaiba qui est vas-y, je suis le meilleur, j'ai les meilleures cartes, je suis super puissant et c'est pour ça que je veux le Blue Eyes White Dragon. Et c'est un mec cruel, quoi.
Pour finir sur Kaiba, t'avais une dernière ref.
Ouais, oui, j'avais pensé au film Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension, qui est sorti en 2016, donc pour les 20 ans de la série, et qui est en fait la finalité de l'arc de Kaiba, puisque, bon, je vais spoiler 2-3 éléments.
Tu semi-spoil, on va dire.
Je semi-spoil, mais la fin du manga, ça parle de deuil, et ça parle d'un départ, le départ de l'autre personnalité de Yugi, Et en fait, Kaiba n'assiste pas à ce départ. Et lui, en fait, il reste bloqué à la fin de l'arc de Batailleville, donc qui est donc la fin de la série, c'est tome 38. La fin de l'arc de Batailleville, c'est enfin du Battle City, parce que Batailleville, c'est dans l'animé. Ouais, je vais revenir là-dessus.
Batailleville.
Le Battle City, c'est fin tome 31. Donc, il y a eu 7 tomes sans Kaiba, et en fait, lui, il voit pas la vraie finalité de l'histoire. Et donc, il y a eu un film d'animation qui a été fait où dans lequel donc le manga s'est terminé, l'esprit dans le corps de Yugi est parti, il est parti là où il devait être. Et Kaiba, lui, il est pas au courant et lui il se dit ouais mais ce mec il m'a toujours battu aux cartes, donc je vais le retrouver et je vais l'allumer aux cartes. Et en fait tout cet animé, même si on voit Yugi, on voit Jonouchi, on voit tous ces personnages qui continuent à évoluer. On apprend d'autres choses sur la ville de Domino City, mais pareil, je reviendrai dessus plus tard. Et là, on voit que le Kaiba, en fait, il est acharné et qu'il refuse la réalité du fait que son rival ultime a disparu. Et donc, il est dans une quête perpétuelle, au point que, à la fin de l'animé, il va vraiment très, très loin pour le retrouver.
Oui, enfin, il fait un peu mal au cœur quand même, Kaiba.
Bah, il est assez triste, en fait, puisque au début, c'est un personnage vraiment antagoniste, rival, méchant, et petit à petit on voit qu'il s'humanise, mais parce qu'il va toujours prendre des décisions qui vont beaucoup trop loin, et il va finir par comprendre que sa décision allait trop loin et il va essayer de revenir en arrière. Même si le record de relations toxiques entre Yugi et Kaiba, ça reste pendant l'arc de Pegasus, donc c'est autour du tome 12-13, où Kaiba va menacer de se jeter d'une tour si jamais il perd le duel. Et quand il finit par perdre... Quand il finit par gagner, pardon, puisque Yugi finit par se dire « Bah non, en fait, je vais pas le tuer, donc j'abandonne le duel. » Kaiba va lui dire « Ah, t'es trop nul, t'aurais pu gagner. » Je ne crois pas. Heureusement que Yugi a des amis qui vont aller voir Kaiba pour lui dire « Non, mais en fait, je crois que t'as pas compris ce que t'étais en train de faire et que c'était pas normal.
» Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses dans ce manga. Effectivement, on spoil quelques éléments, mais... Je trouve pas que ça dessert la découverte ou quoi que ce soit dans l'histoire de Yugi. En plus, vous aurez oublié d'ici là, le temps que cet homme sorte. Donc, à un moment donné, c'est pas très grave. Sur le dernier arc aussi, t'avais un truc aussi qui t'avait marqué.
Ce qui est fort avec ce dernier arc, c'est déjà qu'il abandonne complètement le jeu de cartes. Enfin, il en garde une espèce de fond. Et il fait beaucoup de raccords avec les premiers tomes. On sent que tous les arcs développés autour du jeu de cartes ont été, bah, justement, comme on le disait tout à l'heure, poussés par les lecteurs.
Et poussés par le TCG et le fait aussi que ça marchait, quoi.
Oui, et poussés par le succès de la série, le succès du TCG. Mais qui avait une ligne, un fil rouge que Takahashi avait en tête. Et donc, il finit de le développer avec la mythologie égyptienne. Le fait que ce double de Yugi va retourner dans son passé mystérieux qui se situe, bon, on l'a dit un peu tout à l'heure, en Égypte antique. Et dans cette Égypte, il va recroiser un équivalent de Kaiba, un équivalent de son grand-père, un équivalent de tous les personnages qu'il a pu côtoyer jusque-là. Et il y a des échos très forts qui vont se faire avec le début, avec le premier duel entre Kaiba et Yugi, donc qui est vraiment au tout début de la série, où Kaiba va finir par perdre puisqu'il va jouer le dragon blanc, sauf que c'est le dragon blanc du grand-père de Yugi, et le dragon blanc va refuser d'attaquer Yugi. Et dans ce dernier arc, l'arc entre donc l'équivalent de Kaiba dans le passé et de Yugi, où pareil, ils vont sortir le magicien sombre, le dragon blanc. Le dragon blanc va refuser d'attaquer Yugi, donc un peu sur le même principe, pour des raisons différentes, mais en tout cas, il y a cet écho-là qui est assez impactant, et c'est vrai qu'en lisant, bon, du coup, j'ai relu tous les tomes à la suite assez vite, j'ai vraiment bingé la série, et là, ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, mais c'est... Ben, en fait, ça marche super bien.
À savoir que ça n'a pas abordé, parce qu'en plus, on est dans les années 90 à ce moment-là, mais c'est quand même des pilleurs des tombes, hein, les
en plus.
C'était évident.
On est quand même sur des pilleurs de tombes qui sont allés en Égypte, ouais, il y en a qui sont morts vite fait en trouvant ce puzzle, mais le puzzle du millénium et tout. Mais c'est quand même des pilleurs de tombes. Et dès le début, à chaque fois, je fais ça, en 2020, ça passerait pas.
Après, Takahashi, il a quand même précisé hein, que le manga, c'était pas un manga de cartes. Et que le thème principal, donc c'était pas les cartes, mais le thème principal c'était l'amitié. Et même après être devenu un manga de duel, et ben Takahashi expliquait que le véritable message de Yu-Gi-Oh! Et ben c'est l'amitié, la confiance, le dépassement de soi. Et les cartes, ce n'est qu'un moyen de raconter cette histoire.
Bon, et le pote un peu pervers narcissique
aussi. Et en vrai, t'es dans le jump, en fait.
Voilà. Ça, on a tous, hein. De toute façon, c'est la vie, hein. Il a raison. C'est une quête, c'est un accomplissement. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'il a fait évoluer aussi le jeu au fur et à mesure.
Mais après, c'est marrant parce que Kaiba, il ressemble quand même beaucoup à Yugi, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais dans les premiers jeux, et Takahashi l'explique dans ses interviews, il voulait pas un héros fort physiquement. Il voulait des combats qui étaient basés sur la ruse, sur l'analyse de l'adversaire, sur la lecture psychologique, bref, sur plein de choses que Yugi et au final Yami Yugi gagnent souvent grâce à ça. Et parce qu'ils arrivent à comprendre les intentions de l'adversaire, ils retournent les situations impossibles, bref, ils utilisent vraiment des règles de jeu pour gagner. Et au final, Kaiba, c'est pas un mec fort physiquement, il est comme Yugi. Et lui, il arrive, il s'en sort parce qu'il est intelligent, à son intellect, il essaie de deviner ce que va faire l'adversaire, il joue aux cartes. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'antagoniste parfait de Yugi, c'est pas comme les premiers jeux où à chaque fois c'était des gros mecs super forts qui étaient là en disant « je vais te péter la gueule !» Et Yugi qui fait « attends, on va faire un jeu 2D, tu me touches pas hein. ». On va faire un jeu 2D. Voilà, tu vois. Et tu vois, il y a vraiment cette différence. Et c'est l'introduction de Kaiba, même s'il reste toxique, fait que bah, c'est un mec qu'on s'attache quand même, tu vois. Il a réussi avec son intellect.
Et c'est vrai que là-dessus, en plus, à chaque fois que ses adversaires essayent de s'en prendre à lui physiquement, ça se retourne contre eux. Ouais. Donc il appuie vraiment ce côté-là.
Ou alors, c'est qu'il l'a fait exprès. Genre le mec du taser, il fait « ah, oh, tu m'as frappé, attends ».
Parlons un peu du jeu dans le jeu, du jeu, le jeu, le jeu de cartes. Est-ce que les règles du TCG d'aujourd'hui, c'est tout de suite dans le tome 1 là, de la nouvelle édition, de quand on voit le premier duel Kaiba-Yugi?
Alors ça n'a rien à voir. Bon, déjà le TCG a beaucoup évolué avec le temps, puisqu'avec les nouvelles séries Yu-Gi-Oh! Il y a eu des ajouts au TCG. C'est-à-dire qu'au début on avait des monstres, des magies et des pièges qu'on pouvait invoquer, puis au bout d'un moment on a commencé à dire « ah mais on peut fusionner des monstres entre eux pour faire des plus gros monstres », puis après on a commencé à dire « ah mais attends, si on est sur des motos et qu'on va vite, et ben du coup on peut faire des invocations synchro », je ne sais pas le sens de tout ça, mais en tout cas ce sont de nouveaux styles de monstres qui arrivent, qui sont plus faciles à poser et tout ça, et ça a évolué au point qu'aujourd'hui une partie de Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup, je caricature un peu, mais c'est quelqu'un qui va piocher une carte et puis qui va commencer à dire je joue ça, je vais chercher ça, je vais faire ça, je vais tatatatata, et donc c'est un tour qui dure 10 minutes, à la fin le type il a plein de cartes en jeu et là il y a le mec en face qui va essayer de pourrir ce qu'il a en face et refaire un peu la même chose et finir avec plein de cartes et essayer de finir son adversaire le plus vite possible. Et bah à l'époque non, le jeu c'est un...
Ils ont 4 cartes devant eux hein.
Ouais. Ah oui, c'est
ils piochent
ça,
une carte ont... Ouais, je la pose.
Ouais, il est chaud.
Et non, mais il y a 3 règles en plus dans le
chapitre.
Oui,
en plus ça va très vite et à partir de l'arc de l'île de Pegasus, ça s'accélère un petit peu. Il y a des règles qui commencent à être un peu plus précises. Mais pour moi, ça reste un biais pour définir des personnages. Enfin, ça reste une espèce de combat bon, d'intellect, du coup. Mais on voit qu'il y a des personnages comme Insectoraga, qui est bon, bah, voilà, le mec qui joue avec des insectes. Mais le fait d'avoir designé plein d'insectes différents et une stratégie autour de ça, comment ça fonctionne. Plus tard, dans Battle City, il va même parasiter un autre deck. Donc voilà, il y a une logique en fait qui permet de mieux définir les personnages et qui permet de justement développer un peu leur...
Ouais, de travailler sur des stéréotypes, ouais. et de mêler leur façon de jouer avec les stéréotypes qu'ils sont, mais comme on a dans plein de mangas de combat en fait, hein, parce que ça reste un manga de combat aussi.
Après les règles, c'est vrai qu'elles n'étaient pas trop claires. Toi, j'ai dû relire plusieurs fois en me disant « alors attends, tu peux être en attaque ou en défense, mais du coup, si l'autre il est plus fort que moi et moi je meurs pas, c'est trop bizarre. » Genre le dragon, toi, à un moment il a 1500 d'attaque et 800 de défense, et quand il attaque il peut se faire défoncer mais pourtant il meurt pas, tu vois. J'ai fait bizarre cette règle.
J'ai essayé de regarder les montants de, parce que chaque joueur commence avec un nombre de points de vie défini,
ouais,
qui va
2000.
Baisser donc au début 2000. C'est 2000 et j'ai regardé les points de vie qui baissent et à un moment j'ai commencé à me dire je crois que ça n'a aucun sens.
Non il y avait pas fait. Je suis à 500, je suis à 800, mais attends, mais c'est à dire que t'imagines avec le dragon, avec le Blue Eyes White Dragon qui a 3500 d'attaque, ça veut dire que si t'attaques et
tu
que
one
le
shot.
Mec, bah tu one shot si le mec il a que 1500 de vie, quoi.
Et c'est possible.
Et ça peut arriver.
Tu peux jouer comme ça dans est-ce que tu peux utiliser des tactiques de Yugi ou d'un autre personnage du manga dans la vraie vie en TCG? Est-ce que t'as au moins des modes de jeu où tu ressembles, où tu fais je joue comme dans le manga, ça c'est mon mantra, tu vois?
Alors moi j'ai un truc, c'est qu'effectivement j'ai qu'une carte qui peut me sauver parfois dans un deck et je fais l'âme des cartes. Mais c'est le seul truc que je fais.
Avec des potes sur des parties de Magic, on a commencé à même mettre des musiques de Yu-Gi-Oh! Quand on commence à se dire, allez les gars, cette fois c'est je mise sur la carte qui est au-dessus de mon deck, je crois en l'âme des cartes, je balance la musique et là je pioche. Et généralement, ça donne un très mauvais résultat d'ailleurs, je le déconseille.
Moi je l'ai eu une fois.
Mais par contre, en vrai, il y a une façon de jouer qui rapproche un peu du manga. Il y en a deux. Il y a la première, c'est de jouer à Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui est l'appli sur, sur portable. Donc, c'est une version un petit peu simplifiée et raccourcie des règles pour que les duels ne durent pas plus de 5 minutes. Et en fait, dans ce jeu, tu peux jouer des... Enfin, t'as ton deck et t'as des personnages à côté. Et tu peux activer des compétences de personnages qui vont s'appliquer pendant le duel. Donc, qui font des choses qui sont impossibles normalement. Mais ça permet de retrouver un petit peu les sensations de l'anime. Le seul défaut, c'est que c'est un free-to-play. Donc, il faut y passer beaucoup de temps pour constituer le deck que tu veux. Et sinon, pour retrouver des sensations qui s'en rapprochent sans jouer aux jeux de cartes modernes, parce qu'il faut se plonger dans une méta, justement, dans un système de jeu existant, dans un écosystème, en fait, et réussir à se projeter. Il y a un format de jeu qui s'appelle le format GOAT, en référence à la carte Scapegoat. Ça n'a rien à voir avec le Greatest of All Time. C'est un format, le principe, c'est de jouer à Yu-Gi-Oh! Comme en 2005. Donc, en fait, c'est de ne jouer qu'avec les cartes qui sont sorties avant l'été 2005. Et ça permet de retrouver un peu les sensations de l'animé et un jeu un peu plus cool.
Mais tu peux jouer Cristiano Ronaldo ou pas du tout?
Signé.
Je suis pas sûr qu'il soit dans le jeu.
Ah mince, c'est vraiment nul ces jeux. Yu-Gi-Oh! Tu avais, Grim, une théorie absolument imparable sur comment classer Yu-Gi-Oh! Dans une bibliothèque.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'horreur, on a parlé de plein de sous-genres, mais finalement, je pense que c'est une dystopie cyberpunk.
Donc c'est un manga de science-fiction.
C'est un manga de science-fiction pour plusieurs raisons, mais du coup ça se raccroche énormément au film Dark Side of Dimension, même si il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Déjà, bon, il y a des moments où il y a Pegasus ou d'autres, Yugi ou autres qui vont capturer des âmes des gens dans des cartes, les cartes qu'ils achètent et qu'ils jouent. Donc déjà, il y a ce côté, on a un produit mercantile et en fait on va enfermer l'âme des gens à l'intérieur. Et dans Dark Side of Dimension, on apprend que Kaiba, donc qui dirige la Kaiba Corp, entreprise colossale, en fait possède Domino City, puisque dans le film d'animation, on voit des bâtiments en travaux avec sur les travaux, il y a des logos Kaiba Corp. Kaiba, il a juste créé un satellite au-dessus de la Terre qui est en forme de KC pour Kaiba Corp. Et
toujours plus.
C'est pratique en plus pour voler autour de la Terre, d'avoir en forme de KC.
Oui, c'est vrai que c'est super aérodynamique.
Ah oui, en forme de KC, les lettres, putain, j'avais pas compris.
Les lettres KC.
Toi, si t'avais dit KFC, j'aurais trouvé, mais là, KC.
KFC va peut-être lancer son satellite en forme de KFC.
Et là où ça a confirmé ma théorie, donc déjà, il y a un côté futuriste, puisqu'ils ont des dual disques, ils ont des appareils qui tiennent à bout de bras et qui projettent des hologrammes immenses de leurs cartes. Et en plus, au détour d'un dialogue de Dark Side of Dimension, mais c'est un truc un peu dissimulé. Ils disent, au fait, est-ce que t'as pensé à déclarer ton deck à la mairie? Donc ça veut dire que si à la mairie de Domino City, qui est probablement la Kaiba Corp, ça doit être la même chose, il faut que t'aies déclaré ton deck pour être un citoyen, sinon ça va pas. Il y a un problème.
Le seul truc qui manque, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux comme aujourd'hui, mais je suis sûr que il aurait injecté le truc de... Je note les gens dans la ville, je note leurs docs, je mets des étoiles et tout.
Ah, mais dans l'arc de Battle City, d'ailleurs, pour s'inscrire au tournoi, il faut être référencé sur Internet en tant que joueur avec, il y a des catégories, et donc le maximum c'est 8 étoiles, je crois. Donc Yugi, il est 8 étoiles instantanément. Et on voit que Jonouchi, comme Kaiba l'aime pas, bah, alors qu'il est arrivé finaliste sur l'île de Pegasus, donc un des plus grands tournois, il est une ou deux étoiles. Jusqu'à ce que le vendeur voit que Jonouchi a des cartes super rares. Et disent « Ah non, mais t'inquiète, je vais t'inscrire au tournoi », puis il en profite pour lui voler ses cartes, évidemment.
Mais d'ailleurs, vous savez que le truc là, qu'il a sur le bras où il mettait ses cartes et les monstres, ils s'affichent, il y a un vrai mec qui l'a fait dans la réalité. Et ben Bandai, il l'arrête, enfin Konami Bandai, l'a arrêté tout de suite. Il fait « Ah non, tu fais pas ça, c'est beaucoup trop bien, donc déjà, tu vas arrêter tout de suite. »
Mais ils ont pas essayé de le sortir?
Bah, je sais pas, mais le mec, par contre, quand il l'a affiché, je fais « Waouh, c'est le vrai !»
Mais c'est vrai que j'en ai vu passer pas mal, mais je crois qu'ils sont pas officiels.
Non,
et
c'est pas officiel.
En plus, c'est injouable parce qu'en fait, ça pèse une tonne. C'est impossible de faire tenir les cartes dessus.
Mais c'est trop stylé.
Le plastique, il explose les cartes. Mais ce serait incroyable.
Mais imagine, tu sais, avec des hologrammes comme ça, tu mets ta carte, tu fais « Bam !» Mélenchon apparaît.
Voilà, le politico-bon.
Moi, j'ai une contre-théorie. Ça serait pas un manga cyberpunk, ni un manga de SF. C'est un manga de Magical Boy.
Quoi?
À l'époque, Cardcaptor Sakura était déjà sorti Yu-Gi-Oh est sorti. C'est une Magical Girl à sa façon. Elle a des cartes. Et que fait Yu-Gi-Oh?
Il a des cartes.
Il se transforme. La nuit, il se transforme pour punir les méchants.
Ouais, mais il a
pas de costume. Avec des jeux et après avec des cartes. Il a un costume.
Ah, si,
de,
il a un costume spécifique.
Il est totalement
même,
franc.
Même quelqu'un lui dit.
Thomas, ouais, Thomas.
Lui dit,
je crois que même
quoi,
chapitre 1, c'est quoi ces vêtements?
Moi, je pense que c'est le emo originel. Mais
ouais, c'est ça. Donc, en fait, il se transforme la nuit en Magical Boy pour venger tous les gens qui ont été embêtés de toute l'école. Et il attrape les méchants et il est puni à sa façon, soit. Mais il est puni quand même. Il les transforme pas en cartes. Mais bon, après, il fait des trucs avec des cartes. Ils emprisonnent des gens dans des cartes. Ça marche. C'est peut-être l'ennemi de Cardcaptor Sakura, tu vois, finalement.
C'est peut-être son rival, finalement.
Le rival.
Mais
c'est peut-être des amis.
Oui, mais
c'est peut-être lui, en fait, l'homme masqué de Cardcaptor Sakura.
Non, on le verrait avec sa coupe de cheveux. Je pense que ça ressortirait très vite. Mais c'est un peu un Magical Boy dans un univers cyberpunk, finalement.
Ok, ça marche. Je le prends. Est-ce que tu as une contre-théorie?
Je ne savais pas qu'il fallait étayer une théorie. Non, moi, je vais vous raconter des vrais faits sur l'auteur. Par exemple, là, Yu-Gi-Oh! Est sorti en 96, mais l'auteur, il a commencé sa carrière bien avant. Hein. Il a fait, je sais pas, plus de 10 années de mangaka où il alternait petit boulot et il faisait des mangas. Donc, il a sorti des one-shots, il a même eu des prix. Mais en vrai, pendant 15 ans, il a galéré, quoi. Il a pas réussi avant Yu-Gi-Oh! Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est, voilà, encore la persévérance, encore la confiance et l'amitié pour sortir de la galère.
Voilà, Yu-Gi-Oh! Est sorti et ressorti en France dans cette édition Millennium qui pèse donc 623 grammes d'après la balance de cuisine de Johnny, le manga de Kazuki Takahashi. T'as redévoré avec effectivement un regard différent hein, des années après. Il y a des choses que vous allez trouver totalement naze et d'autres que vous allez trouver totalement géniales dans ce manga. Mais il y a moyen que à la fin du tome 1 de cette nouvelle édition, vous disiez bon, bah, je vais faire le tome 2 quand même.
Non, puis le concept de la couverture du début, c'est un peu le concept de tout le manga, ce qui est en fait chaque personne a une part d'ombre en lui, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et au final, c'est ce qu'on voit, que ça soit pour les méchants ou pour les gentils, et c'est ce qu'il exprime dans cette postface plus la couverture.
Oui, parce que tu disais au tout début d'émission, je spoil en disant machin, Yami Yugi. C'est la couverture. Hein.
Ouais, c'est la couverture. Oui, mais on ne sait pas. Toi, ça pourrait être juste un mec qui est.
Oui, on voit qu'il est possédé par un mec chelou derrière. Effectivement, on n'a pas son nom. Mais...
On n'en parle pas.
Mais on voit. On voit qu'il est possédé.
Et puis on l'apprend très très vite dans la
série. Oui, en plus. Est-ce que vous avez un mot de la fin au sujet du Guillot?
Ouais, moi j'en ai un. Je dirais que. Il y a beaucoup de mangas que j'ai lu. Bon, Yu-Gi-Oh! C'est mon premier manga. Vraiment, j'ai démarré dans cet univers avec ça. Et c'est un manga que j'aime profondément pour la nostalgie, mais aussi pour ce qu'il est, pour le jeu de cartes auquel j'ai pu jouer pendant longtemps. Et par rapport à d'autres mangas que j'ai pu lire, dont je ne citerai pas de titre, hein, mais il y a plusieurs mangas de mon enfance que j'ai relus en étant un peu déçu, en me disant. Ah oui, en fait, dans mes souvenirs, c'était vachement mieux. Et Yu-Gi-Oh! C'est un manga qui tient la longueur. Et bah, 20 ans, enfin plus de 20 ans après avoir démarré la série, en relisant la fin ce week-end, j'étais pas loin de lâcher une larme sur le dernier tome parce que ça m'a vraiment touché.
Prenez pas obligé de parler de Samurai Deeper Kyo à chaque émission. Johnny, est-ce que t'as un mot de la fin?
Moi, je me rappelle, il était dans les trois mangas que j'ai lus aussi chez mes cousins. Vous savez qu'il y avait My Goddess, évidemment, il y a Aizu et il y a Yu-Gi-Oh! Qui était là, effectivement. Peut-être que j'en ai parlé hein, dans les mangas oubliés d'ailleurs, dans mon top 10 plutôt.
Dans ton top 10, est-ce qu'il y avait Yu-Gi-Oh! Ah, ça, je me souviendrai pas.
Faut que je regarde, j'ai dit plein de trucs de romance, mais en vrai, Yu-Gi-Oh! Était là. Hein.
Non, mais je crois pas que tu l'avais mis dedans.
Si, si, il était là. Je sais qu'il était là.
Pas loin, dans un coin. Yu-Gi-Oh! Est sorti. On vous remercie d'avoir écouté cette émission. Nous, on va partir en vacances. On va partir en vacances. On va profiter de cet été maintenant, qui est déjà bien commencé, de ces 28 canicules qui nous attendent également. On a fait effectivement une émission avec beaucoup de trop de conseils de lecture. Ouais, exactement. Lisez Strand. Strand, excellent manga de Number 8 et de Ryohei Masuko. Et puis, lisez Yu-Gi-Oh! Est-ce qu'il faut lire aussi les spin-off de Yu-Gi-Oh!
Alors moi, je les recommanderais pas trop Yu-Gi-Oh! R, à la limite. On peut dire que c'est sympa si on connaît le jeu de cartes parce que c'est le seul moment où Yu-Gi joue un jeu vraiment viable. Parce que sinon, Ma théorie, c'est que ça reste un tricheur. puisqu'il mise beaucoup trop sur la chance.
C'est vrai que t'avais dit que t'allais revenir sur le fait que Yugi était un tricheur. Ah, oui, tu l'avais
c'est vrai que
tu l'as pas dit.
J'ai pas pensé. Alors,
pourquoi Yugi est un tricheur?
Il manipule le jeu, mais bon, voilà, Exodia, il est sorti. Enfin, oui, au bout d'un moment, il a réussi, tu vois.
Il a énormément de chance.
Bah,
et
il triche pas. Hein.
Non, mais en plus de ça, en fait, c'est plus que c'est un environnement de tricheur entre un secteur aga qui vient insérer une carte dans le deck de Joey, de Jonouchi. Kaiba qui menace de se jeter d'une tour pour gagner son duel. Enfin, pour moi, il y a un moment où ils trichent tous un petit peu. Mais Yugi, particulièrement, parce qu'en fait, si on analyse du point de vue du jeu réel, et son deck est absurde, parce que c'est juste une pile de cartes qui marchent plus ou moins bien, mais qui sont très situationnelles. Et donc, je pense qu'il triche. Mais du coup, dans Yu-Gi-Oh! R, qui est un spin-off de 5 tomes dédié au jeu de cartes, il a un deck qui fonctionne. Mais le spin-off en lui-même, si on aime beaucoup le jeu de cartes, ça marche, sinon c'est pas très intéressant. Et les suites GX et tout ça, c'est carrément des dérivés des animés qui ont été créés avant le manga, enfin avant ces spin-offs, et je trouve que c'est moins intéressant et moins marquant.
Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cette émission. À la rentrée, on vous prépare 1 million de trucs, je crois, à peu près. On va parler de fin de manga, on a notre select de manga français aussi, comme chaque année. On aura nos mangas de la rentrée, parce qu'il y a encore pas mal de nouveautés qui sont prévues pour la rentrée. On va aller dans les coulisses d'un studio aussi d'assistants de mangaka, notamment. Je vous en dis pas plus, mais voilà, on vous prépare pas mal de trucs pour la rentrée. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. On parlera de Ghost in the Shell aussi. Ghost in the Shell, dans le dernier trimestre. Ouais, attention, ça va être très fort la saison prochaine. Merci à tous, passez un bon été, écoutez toutes les autres émissions, venez débattre avec nous sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette saison de la 5e de Couve. On se retrouve en septembre. Ciao, salut tout le monde.
Salut.
Salut.